Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Citoyenne, l'émission proposée par le Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors nous sommes à quelques jours du printemps, il y a un peu de soleil aujourd'hui, c'est le temps des projets. Et c'est le moment où de nouveaux contours pour l'avenir commencent à se dessiner. Alors après ce triste hiver gris et pluvieux, nous allons mettre un peu de couleur dans l'émission avec Paul Poirier, l'architecte nantais qui veut réenchanter la ville avec son projet de nouveau pont transbordeur. Bonjour Paul Poirier.
Bonjour Gabriel.
Alors Philippe Audig est également avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, je le rappelle, est le président du Conseil du développement. Là, comme d'habitude, vous intervenez évidemment quand vous voulez. Alors ce projet de nouveau pont transbordeur occupe l'actualité nantaise déjà depuis plusieurs années. D'abord accueilli avec un peu de scepticisme et même quelques sarcasmes, notamment dans la sphère politique, il a peu à peu conquis une assez large frange finalement de l'opinion publique. Le Conseil du développement a d'ailleurs joué son rôle dans cette popularisation du projet. Et Yves Lainé, le président de l'association des transbordés que nous saluons au passage, y est pour beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire un peu un point sur ce dossier. Mais d'abord, un mot sur vous, Paul Poirier. Vous n'êtes pas tout à fait nantais d'origine, je crois, si mes fiches sont à jour. Mais vous avez choisi cette ville pour vous y établir comme architecte. Finalement, à une époque où elle ne jouissait sans doute pas de l'image qu'elle a aujourd'hui. Vous avez fait aussi un peu de politique, je crois, puisqu'en 2008, vous figuriez sur la liste d'opposition à Jean-Marc Ayrault. Et que là encore, si mes fiches sont à jour, vous avez même ambitionné d'être un certain temps à la tête de cette liste d'opposition. Alors on peut aussi ajouter que vous avez une sensibilité quand même plutôt fluviale et maritime. Et ça explique sans doute une part de votre engagement sur ce projet. Alors comme d'habitude, dans Fréquence Citoyenne, ma première question est un peu personnelle. C'est un peu l'habitude de la maison. Pourquoi un architecte parisien est-il venu s'installer à Nantes au début des années 90? C'était déjà l'appel du large ou vous aviez déjà senti que la ville modifiait un peu son image?
Alors moi, je suis venu m'installer pour les vacances à Nantes bien avant ça. On avait un petit peu du mal à partir en vacances et des cousins nous prêtaient leur maison. Donc, alors c'est très rigolo parce que pour moi, Nantes, ça a été toujours une ville où il faisait très chaud. Pourquoi? Parce que j'y venais en été. Une ville où je venais en vacances. Donc, pour moi, Nantes était vraiment une destination de vacances.
Ah oui, pour vous, Nantes est associée à une image touristique et une soleil.
Ah oui, c'était la Cagna. Hein. Bon, après, en 93, je crois qu'on a eu l'année la plus pluvieuse depuis longtemps. Et donc, j'ai vite compris. Mais non, Nantes, pour moi, c'est un choix de cœur. Je me rappelle très bien, pendant mes études, même au lycée, on parlait de partir parce qu'on en avait ras-le-bol de cette ville de Paris et à banlieue. En fait, on était un peu nulle part. Quoi. Et j'avais vraiment ce rêve de partir à Nantes et j'ai réalisé avec mon épouse en 93, donc ce rêve de partir à Nantes. Mais bon, vous dites pas tout à fait nantais, vous savez, le jour où j'ai posé mes pieds à Nantes, c'est marrant, mais j'ai été nantais, quoi, tout de suite.
Très bien, alors revenons à l'idée du pont transbordeur. Comment cette idée vous est-elle venue finalement de remettre au goût du jour un équipement dont l'époque de construction quand même remonte au début du 20e?
En fait, quand je suis venu à Nantes, moi je me suis rapproché de la mer, donc ça me paraissait évident que Nantes devait être et devait rester une ville attachée à la mer. Donc l'histoire de progressivement combler les bras de Loire, d'Erdre, le départ des chantiers, etc. Tout ça, ça me paraissait vraiment des éléments négatifs qu'il fallait absolument inverser. Donc il fallait reprendre le chemin de l'eau, finalement retrouver le chemin de l'eau à Nantes. Et quand Jean-Marc Ayrault, au moment des municipales, donc a dit il faut un nouveau pont à cet endroit-là, donc le pont ultime, je dirais, puisque tous les ponts à l'ouest de l'île de Nantes sont des ponts qui laissent passer les bateaux, je me suis dit mais ce pont devra laisser passer les bateaux, ça me paraissait évident. Donc j'ai cherché à voir Jean-Marc Ayrault et je lui ai dit est-ce que vous allez garder le caractère maritime du bras de la Madeleine, donc qui s'étend du point de Bretagne jusqu'à la pointe de l'île de Nantes. Il m'a dit oui, on va garder le caractère maritime, mais seulement, bon, on sait bien qu'il faut faire des ponts, donc le seul pont dans l'histoire des ponts qui soit compatible avec le trafic maritime, ce sont les ponts transbordeurs. Simplement, le concept avait vieilli, il fallait le renouveler, donc on a suivi le même cursus que pour le tramway. Il y a autant de différences, je le dis toujours, entre les anciens tramways et les nouveaux. Et l'aventure, au départ, celui qui a lancé, c'était Chénard, je crois, l'histoire du tramway. Au départ, tout le monde a haussé les épaules et on sait bien le succès que ça a donné.
Que des transbordeurs, finalement, il en reste assez peu dans le monde aujourd'hui. On a le sentiment que c'est un peu une question de patrimoine, finalement. Comment est-ce qu'on transforme une idée un peu qui peut paraître nostalgique, même si ce n'est pas forcément votre cas, en idée un peu plus futuriste?
Effectivement, il y a un saut technologique qui est le même que pour le tramway, c'est-à-dire en fait, on a maintenant modernisé le concept. Je rappelle quand même que, même s'il en reste qu'une grosse dizaine, celui de Bilbao, le premier, hein, qui a plus de 120 ans maintenant, donc a toujours fonctionné. Bon, il y a eu juste une petite interruption au moment de la guerre d'Espagne, mais il a transporté des millions de personnes, des centaines de milliers de véhicules. Hein, chaque année, il continue. Et donc, il y a toujours une permanence de l'idée, et ça fonctionne très bien. Simplement, maintenant, effectivement, on a fait des progrès. Et puis, j'ai pu me rapprocher, heureusement, de l'équipe prestigieuse du viaduc de Millau, avec la présence de Michel Virlogeu à mes côtés. On a pu moderniser le concept et le décupler au niveau du potentiel. C'est-à-dire que maintenant, on peut passer à peu près, je dirais, entre 500 et 800 véhicules heure. Et tout le reste, y compris des tramways. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'un tramway, on peut faire traverser un tramway. Donc, bien sûr, ça intéresse beaucoup de gens. Et l'idée de nostalgique au départ, certainement, est devenue une idée finalement futuriste.
Et donc, on n'est pas seulement dans les transports publics, là, on est aussi dans le tourisme, on est dans un projet qui a multiples facettes. Alors.
Oui, parce que ces ponts, dans toutes les villes où ça existait, et c'est le cas à Nantes, hein, moi, quand je me déplace dans les intérieurs nantais, je vois souvent une image du transbordeur, un tableau, etc. Ces ponts-là sont des ponts vivants. Tous les autres ponts sont des ponts inertes, en dehors des ponts levants. Mais beaucoup plus que les ponts levants, ces ponts-là, les ponts transbordeurs, ont déclenché un sentiment d'attachement très fort dans les populations, dans des villes dans lesquelles ils ont été présents, où ils sont présents. Je parle notamment, bien sûr, de Nantes, mais de Marseille également. Bon, Rochefort, on a pu le sauver, même s'il est moins joli, je trouve, que celui qu'on avait à Nantes. Mais Bilbao, par exemple, moi, les gens qui s'occupent de celui de Bilbao m'ont dit, on sent bien que vous allez le faire, votre pont transbordeur moderne, mais vous savez, nous, on est un peu jaloux, parce qu'on est tellement attachés au nôtre, c'est... Cette idée est difficile à admettre pour nous qui viennent d'avoir une nouvelle génération.
Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur l'échange précédent, notamment concernant la vocation maritime du port de Nantes. Parce que finalement, petit à petit, il y a une sorte de sentiment qui se fait que, bon, globalement, on verra de moins en moins les grands bateaux venir sur Nantes et que les quais de Nantes deviennent des quais finalement d'un port plutôt fluvial que maritime. Est-ce que vous ressentez ça? Je pense même que ça traverse, y compris les acteurs du port lui-même.
Oui, alors là, moi, je me rebelle. Vous avez vu récemment dans la presse, hein, là, je ne me ménage pas. Je me rebelle contre toute résignation. L'âme de Nantes est une âme maritime. Nantes s'est fait grâce à la mer, grâce à ce lien, ce cordon ombilical qui la relie à la mer. Donc, bien sûr que les choses évoluent. On n'a plus le même type de bateau, etc. Mais bon, allez, on est lundi matin, on va se réveiller. J'imagine une armada. Dans 3-4 ans, hein, en 2018, l'armada qui vient à Nantes. Hein, vous savez, les grands voiliers là, qu'on voit à Rouen et Bordeaux, vous imaginez ce que ça peut faire? On a tout à fait la capacité d'accueillir une armada à Nantes. Voilà, bon, ça c'est une idée qui va redonner du tonus à la ville, vous ne pensez pas?
Ok, alors pour reprendre la suite de la question de Gabriel précédente, où il évoquait finalement à la fois un ouvrage qui a une vocation évidemment de transport, de traversée du fleuve, et en même temps un côté touristique. Alors, est-ce que ce n'est pas le handicap de ce projet, justement, de
combiner les deux?
C'est-à-dire de ne pas être clairement l'un ou clairement l'autre. Enfin, c'est clairement l'un et clairement l'autre, mais c'est...
Moi, j'ai toujours dit, attention, c'est d'abord un pont, et c'est d'abord un pont utile. C'est d'abord un pont qui permet de faire passer des bateaux. La preuve, ça marche, on le voit très bien à Bilbao, et on fera beaucoup mieux que Bilbao. Donc, c'est d'abord un pont avec une fonction utile avant d'être un objet iconique, c'est-à-dire qui devient, en fait, finalement, le logo d'une ville, ce qui est le cas à chaque fois que ça existait quelque part. Donc, aujourd'hui, non, on est d'abord sur un ouvrage d'art utile, et qui, par ses capacités propres, justement, le fait, les Nantais, la première fois donc, qu'on a ouvert le pont, ils sont précipités dans les escaliers pour monter, pour avoir une vue fantastique. Donc, il est, comme disait Jean-François Rétière, il y a à peu près un an quand je l'entendais parler de ça, il cherchait un projet multifonctionnel. On est exactement dans un projet multifonctionnel, donc qui est très intéressant en plus, parce que tous les autres ponts, il ne faut que coûter, même je vois le pont de Bordeaux qui vient de s'ouvrir, il va coûter à la collectivité, mais il va pas, voilà, on n'aura pas des touristes qui vont monter monter là-haut. Une fois que le pont est levé, il n'y a personne là-haut. Alors que nous, au contraire, la partie haute, le tablier, est une rue aérienne dans laquelle on a un belvédère et on peut tout à fait accueillir plus de 1000 personnes. Donc vous imaginez un belvédère, on voit le succès du nid, pour lequel vous êtes pour beaucoup. Donc voilà, on imagine effectivement que ces différentes fonctions de l'ouvrage assureront certainement son succès.
Un mot sur cette question de l'âme maritime là, que vous avez évoquée. Cette âme maritime, vous croyez qu'elle est présente aussi dans les plus jeunes générations? C'est quelque chose qui se transmet ou qui se dilue?
Alors, à voir, toute génération confondue, mais ça va de 7 à 77 ans, comme ce que vous savez, hein, cet intérêt pour le maritime, il est multigénérationnel. Je vois à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, les départs de course. Moi, j'ai vu le lancement du Banque Populaire 5, le baptême du Banque Populaire 5. C'était une fête populaire
gros succès,
extraordinaire. Ouais. Bon, donc, les départs de course, route du chocolat, le retour du Belém, enfin, qu'on a plus près du centre de la ville, etc. Donc, de ce côté-là, non, tous les jeunes, de cœur, hein, je veux dire, on peut être jeune à 77 ans et plus, sont attirés par le maritime. L'eau a toujours attiré l'homme. Et il ne faut pas perdre ça. Il ne faut pas que nous, Nantais, on perde ce chemin de l'eau.
Et ce projet-là, vous ne l'avez pas monté tout seul. Vous avez une association autour de vous. Vous avez des gens qui vous épaulent, qui vous aident, qui vous appuient. Là, ce petit milieu-là qui s'est agrégé autour de ça, là, il vient d'où ?
Alors, ils viennent de partout, en fait. C'est ça qui fait... Je suis très attaché, effectivement, à l'association Les Transbordés, même si je n'en suis plus qu'un modeste membre. Maintenant, c'est Yves Lenné qui donc travaille énormément avec beaucoup de personnes autour de cela. Voilà, c'est paru dans la presse il y a 4 ans. Et puis, dans la presse, les gens ont lu ou sur Internet. Et puis, se sont rassemblés. Et on a créé cette association Les Transbordés. Je tiens à ce terme des Transbordés. Vous savez, on est tous transbordés. Moi, je suis un Nantais transbordé. Voilà, d'une rive à l'autre, etc. Et qui est heureux d'être là. Il faut être capable de se transborder. Il ne faut jamais avoir peur de l'eau. Il faut être capable de la traverser. Donc voilà, il y a une symbolique très très forte de quelque chose. Voilà, on n'appartient pas à une terre. Cette terre ne nous appartient pas. Il y a une sorte d'alchimie qui se fait. Et cette alchimie, elle est vraiment présente chez les transbordés.
Alors Paul Poirier, essayons de faire un peu le point sur la situation d'aujourd'hui. Ce projet de pont, il en est où? Comment est-ce qu'il avance? Moi, pour vous donner une petite anecdote, la dernière fois que je suis allé chez mon coiffeur, il m'a posé la question de savoir, mais alors, ce pont transbordeur, quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il est fait? Donc, il y a une attente quelque part.
Alors, cet exemple, moi, je le vis maintenant très, très souvent. Il y a un plébiscite réel, un plébiscite populaire pour le projet. Les gens, sans cesse, me demandent, où est-ce que maintenant, ça y est, est-ce que ça va avancer? Alors, de fait, nous, l'équipe, je dirais, industrielle qui porte maintenant le projet, on est prêt. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté les bras croisés, on a énormément travaillé. Et avec Michel Virlogeux, le travail a été vraiment très, très sympathique. Au départ, il m'impressionnait beaucoup. Il a fait 100 ponts, il a fait le pont de Normandie, Viaduc de Térénèse, Millau, etc. C'est quand même un grand monsieur des ponts, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Mais il est tombé amoureux de ce projet. Et maintenant, on arrive à un ouvrage qui est calculé, donc dont la rentabilité économique, le fonctionnement, etc., tout ça est bien établi avec l'aide des professionnels et des spécialistes des ouvrages d'art. Bon, donc de notre côté, on est prêt. Par ailleurs, la population est prête. Moi, je le sens bien. J'ai vu maintenant des milliers de personnes, des milliers de Nantais, etc. On a des courriers sans cesse, etc. Donc, on a vraiment, je dirais, le terrain est prêt. Alors, il y a une difficulté, par contre, au niveau des politiques, j'ai pas peur de le dire, qui se disent on a tout misé sur l'île de Nantes, on l'a fait grossir énormément, on va accueillir le CHU et tout. Donc, il faut absolument, encore une fois, la Loire gêne. Parce que la Loire, c'est un obstacle, en fait. Alors, moi, je dis, attention, pas de panique. La Loire, c'est pas un obstacle, c'est la chance de la ville. Et il faut pas que la ville moderne, je dirais la ville de l'île de Nantes, métacentre étendu à l'île de Nantes, tue l'âme maritime de Nantes. Ce serait trop dommage. Très souvent, il y a eu des décisions à Nantes. Bon, bien sûr, on parle des comblements, mais beaucoup de décisions à Nantes se sont prises dans la précipitation parce qu'il y avait des problèmes fonctionnels. Et du coup, on a regretté ça après. Jean-Marc Ayrault l'avait dit lui-même. Si on n'avait pas démoli le pont de transbordeur, ce serait le bijou de la ville. Bon, voilà, ne prenons pas à toute vitesse des décisions qu'on va regretter plus tard.
Et ce pont transbordeur, là, pour les auditeurs qui sont moins familiers des lieux, peut-être, ou qui ont moins l'âme maritime, comme vous le disiez, il se situe où à peu près exactement?
Alors, il se situerait à peu près entre le hangar à bananes et la grue jaune. Hein, donc, dans le virage, vous voyez, la Loire fait un léger virage. Après les cales de lancement et après la chambre de commerce. Hein, il y a un parking, vous savez, il y a un grand hangar, le hangar 12. Et on a tout à fait la place pour le positionner d'un bord et de l'autre. On a vu les gens du grand port Nantes-Saint-Nazaire, les gens de la Samoa, etc. Tout ça, l'emplacement lui-même, il est tout à fait bien. Et je dirais, même au côté Samoa, il y a un projet de parc, vous savez, hein, qui remplace un peu la darse de chez Metoff. Et ce projet de parc, bah, l'idéal, ce serait de le connecter à l'ouvrage, un petit peu comme le Champ de Mars est connecté à la Tour Eiffel. Vous voyez qu'une perspective, ce que je regrette un petit peu, je ne la vois pas encore venir, mais que, là c'est un petit message à Ennemi de Poit et Marcel Smets, mais qu'ils ouvrent un peu le parc, ils ne le ferment pas sur la Loire, mais que ce parc donne, et il donne justement à l'emplacement où on pourrait positionner le pont à transbordeur.
Et ce pont, il permet d'aller évidemment se promener, d'avoir des restaurants au-dessus. Il permet aussi de transporter des voitures, de transporter des bus, des tramways. Il fait tout ça.
Oui, l'idée forte au départ, donc c'était de prolonger la ligne 5 en fait. Hein. Vous savez qu'on a une sorte d'arête dorsale, d'épine dorsale maintenant, qui est la ligne C5. Elle arrive en impasse, elle est obligée de faire demi-tour malheureusement. Et plutôt que de faire demi-tour, puisqu'elle vient de la gare, quand même, c'est quand même une ligne constitutive des transports en commun dans la nouvelle île de Nantes, et qu'elle puisse nous lui permet de se prolonger, c'est-à-dire de passer la Loire et surtout d'aller se relier à la gare de Chantenay qui, à mon avis, aujourd'hui est sous-exploitée. Et donc, oui, pourquoi pas plus loin. C'est-à-dire, et on avait même parlé, je veux dire, aujourd'hui c'est toujours ouvert, d'un busway, d'une ligne de busway. On sait le succès que la ligne de busway a eu vers Vertou, de faire passer une ligne de busway un jour à travers ce pont, de l'emmener de l'autre côté. Alors évidemment, ça demande des études et tout, mais on est ouvert tout à fait à ça.
Est-ce qu'on peut évoquer le montage financier, puisqu'on commence à voir des chiffres apparaître sur un pont, on va dire, banal, simple, le pont transbordeur. Il y a on vient d'inaugurer le pont Levant de Bordeaux. Donc, est-ce qu'on peut dire deux mots du montage financier que vous imaginez et que vous proposez aux décideurs locaux?
Tout à fait. Je vais donner une échelle de grandeur. Hein. Un pont classique sur un petit bras, donc les ponts qu'on a faits, c'est environ 30 millions d'euros. Là, on est sur un bras plus large, donc un pont fixe qui stopperait le caractère maritime du bras de la Madeleine, c'est environ 50 millions d'euros. Et ça, Nantes Métropole est prête à les dépenser. Il y a eu des fuites, je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais pour dire oui, on est prêt, dans un mandat, à faire finalement dépenser 50 millions d'euros pour un pont fixe. Bon. Après, les ponts qui laissent passer les bateaux, c'est beaucoup plus cher que ça. Pont ou tunnel, d'ailleurs. Un pont Levant, je crois qu'on est à 150 millions d'euros, je donne à peu près, sur celui de Rouen, de Bordeaux. Même chose pour celui de Rouen. Et puis un tunnel, on est, à mon avis, plutôt 150, 170 millions d'euros. Et c'est encore affiné. Donc vous voyez qu'on est par un pont à transbordeur beaucoup moins cher, finalement, tout en laissant passer les bateaux, que les autres ponts qui laissent passer les bateaux.
Juste le seul montant que vous n'avez pas donné, c'est celui du pont transbordeur, justement.
C'est lundi matin. Bon, le pont transbordeur lui-même, il est, la partie franchissement, elle est à 50 millions d'euros. Et puis je dis, voilà, si vous voulez simplement un pont qui laisse passer les bateaux, moi je vous propose un pont au même prix qu'un pont fixe. Bon, après, toute la partie touristique, aujourd'hui, on est en train de travailler avec le Voyage à Nantes. Jean Blaise est très fanat de l'idée pour voir qu'est-ce qu'on va mettre dans la partie touristique. Est-ce qu'il faut mettre un ascenseur, deux ascenseurs, quatre ascenseurs? Est-ce qu'il faut mettre une roue aérienne de 2500 m² ou voilà, qui peut accueillir 1000 personnes, plus 500 personnes en train de faire la jauge? Et de cette jauge, on va déterminer pour cette partie de budget touristique exactement jusqu'où on va. Est-ce qu'on va jusqu'à 30 millions d'euros, donc en plus des 50, ou est-ce qu'on va jusqu'à 50 millions d'euros, ce qui ferait un pont à 100? Mais cette partie-là, elle est rentable. Alors que tous les autres ponts ne sont pas rentables. Et ça, moi, je tiens à insister. Là, c'est pour faire venir des gens à Nantes du monde entier. On n'est plus sur une échelle départementale, régionale ou simplement européenne. On est sur un pont qui a vocation à attirer, à donner une vision, une visibilité internationale à Nantes, donc à attirer des Chinois, des Australiens, etc., pour qu'ils passent du temps à Nantes, qu'ils fassent des nuitées d'hôtel, etc., qu'ils aillent au restaurant à Nantes. Donc, c'est véritablement un enjeu économique avec des emplois à la clé. Enfin, c'était une sorte de moteur économique, nouveau moteur économique du quartier, de Nantes, de la région, etc.
Est-ce que ça veut dire que vous avez un ou des partenaires privés qui seraient prêts à investir dans dans cet aspect-là du pont, l'aspect oui. touristique.
Oui, oui, de ce côté-là, oui, oui, tout est prêt. Je vous dis, nous, nous sommes prêts industriellement, financièrement, au niveau de la population, c'est prêt, etc. Je ne sais pas, aujourd'hui, je me pose la question, ça c'est que les politiques ne sont pas plus enthousiastes que ça reste, que c'est le climat actuel de crise, etc. Je crois qu'il va falloir un petit peu se secouer, parce que sinon, ça va nous passer sous le nez, parce qu'on sait que ce projet-là a un avenir mondial. Les industriels nous l'ont dit, il y a une demande parce que les villes se rapprochent de plus en plus des front-water, etc. On vient avec les bateaux, on fait revenir les bateaux dans les centres-villes, etc. Donc on sait qu'il y a un avenir sur ce projet. Il serait quand même légitime, pertinent que ce soit à Nantes en premier.
Vous venez d'évoquer Jean Blaise. Jean Blaise, je l'ai entendu sur une émission sur Télénor, je crois qu'il se passe au Nid d'ailleurs, il s'appelait Winnie Diou, où on lui posait la question de savoir ce qu'il ne lui plaisait pas à Nantes, ce qu'il n'aimait pas. Et sa réponse est de dire, ce que j'aime pas à Nantes, c'est les ponts.
Oui, oui, j'ai beaucoup apprécié.
Est-ce que c'est un allié pour vous, Jean Blaise, sur cette question du pont transbordeur?
Bien sûr, parce que je l'ai vu, cette émission Winnie Diou de Jean Blaise. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent en pont, ça me plaît pas. Bon, il dit, Tabarly, très bien, devant le palais de justice, etc., c'est bien, mais enfin, en général, on se plante. Donc aujourd'hui, effectivement, je crois, il rêve d'un pont magnifique. C'est quand même Nantes, c'est une ville de pont. On était là sur une ligne de pont pendant des siècles. Il rêve d'un morceau de bravoure. Bon, et je sais qu'effectivement, quand il dit j'aime pas les ponts actuellement, c'est qu'il rêve d'un pont, effectivement, qui fasse venir davantage de touristes sur Nantes.
Et les ponts qui existent un peu encore partout dans le monde, là, les transbordeurs dont vous avez parlé, ils sont aussi, eux, ou dans une phase un peu de renouvellement, un peu comme vous, de modernisation, où il y a de nouveaux projets,
oui,
il y a des choses
oui,
qui...
Tout à fait. C'est-à-dire que le pont de Bilbao a été classé donc il y a quelques années au patrimoine mondial de l'UNESCO, et maintenant tous ces ponts-là veulent être classés tous ensemble au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il y a des réunions tous les deux ans et on suit ça de très près. Et puis bien sûr que dans cette famille des ponts, des anciens ponts, le petit nouveau est regardé de très près. Et le petit nouveau, c'est cette nouvelle génération de ponts transbordeurs. Mais effectivement, cette famille-là nous attend.
Vous avez parlé de Jean Blaise. Est-ce que vous avez d'autres alliés dans cette ville? Philippe a parlé tout à l'heure de partenaires financiers, mais vous pouvez aussi avoir des partenaires locaux qui vous soutiennent, non?
Alors, je dirais un allié de poids, c'est quand même le Conseil de développement. Je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux.
Non, mais en dehors des alliés aussi puissants que ça, il y en a d'autres.
On a senti un intérêt. Vos portes, je veux dire, c'est un beau lieu de démocratie. On a senti qu'il y avait un intérêt quasiment dès le départ. Et j'en étais, moi j'avais même vu Jean-Joseph Régent pour vous dire, je crois deux fois de suite, pour lui dire il faut que Nantes se distingue par un geste architectural très fort. C'est ce que j'avais dit à l'époque et tout. Je l'avais senti sensible à cette question-là. Donc effectivement, dans la ville de Nantes, on a vu beaucoup, beaucoup de gens. Je dirais de façon individuelle, beaucoup de gens sont très sensibles à cette idée-là. Je parle au niveau des politiques. Il y a un écho. Maintenant, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a un problème maintenant de leadership à Nantes. Qui va être le nouveau capitaine dans un an? Et est-ce que cette personne-là, parce qu'il faut une décision, une volonté politique forte, qui va prendre cette décision, c'est la grande question.
Oui, Paul Poirier, on va continuer sur la même thématique, celle des alliés. Alors il y a d'une part la question des politiques, ceux qui sont aujourd'hui en place, ceux qui seront demain en place après l'élection de 2014. Est-ce que de ce point de vue-là, vous espérez que la campagne sera utile à ce projet ?
Oui, en fait, moi je dirais aujourd'hui, j'y peux rien si on se retrouve dans la campagne. Le projet, on aurait pu le lancer il y a deux ans. Mais on se retrouve dans une campagne municipale et c'est en général, je parle à Nantes comme dans d'autres villes où je vais, des moments assez porteurs parce que c'est des moments où il faut de nouveau phosphorer, proposer des projets et tout, des projets qui font rêver, mais des projets aussi qu'on pourra faire. Et donc on est effectivement dans une dynamique aujourd'hui très porteuse. Et je sais qu'actuellement, Yves Lenné, président des Transbordés, fait une sorte de portée à connaissance à tous les groupes politiques pour qu'ils sachent, on peut lire la presse, etc., mais pour avoir une vision réelle de l'enjeu, parce qu'il y a le pont transbordeur, mais les transbordés travaillent également énormément sur le contexte, même en aval, avec la carrière de Misery, etc. Ils ont des projets très, très intéressants, de retour de paquebot, des choses comme ça. Et ça, cette période-là, à mon avis, va être décisive. Il faut que la décision, cette année, soit modélisé dans les projets politiques une fois que les élections seront passées. Ça va être... Et moi, j'espère dans l'équipe actuelle que l'équipe actuelle va avoir le courage de porter un projet aussi fort que ça, c'est-à-dire de ne pas botter en touche et puis une fois qu'on sera élu, de partir un petit peu dans une direction qui n'aura pas été éprouvée par les Nantais. Je voudrais vraiment que cette année soit une un petit peu d'effervescence dans laquelle justement ce genre de projet et puis d'autres soient portés au débat public et j'espère portés politiquement.
Alors en même temps, comment les Nantais qui sont passionnés ou intéressés par ce projet-là peuvent se... exprimer leur soutien. Il me semble que l'association Les Transbordés a plus ou moins lancé une pétition.
L'histoire de cette pétition, c'est intéressant. C'est pas Les Transbordés, en fait. C'est quelqu'un qui disait, mais votre projet est tellement génial qu'il faut absolument qu'il y ait une pétition sur Internet. Donc, il a lancé ça de façon un petit peu, je dirais, sauvage. Et puis, on lui a donné des images et tout. Donc, maintenant, ça y est. Mais c'est lancé. Bon, alors après, il faut aller sur le site des Transbordés et puis voir un petit peu. Donc, c'est le début de cette pétition. Mais moi, la meilleure des pétitions, c'est quand même là aussi, on s'était vu à ce moment-là, les rendez-vous de l'Erdre, qu'on a fait trois ou quatre années de suite. Les gens qui passaient sans cesse et qui signaient. Et on a des cahiers de remplis avec projet extraordinaire, vivement dépêchez-vous, j'ai hâte de le voir, ce serait tellement bien, ça nous réconcilierait avec notre âme maritime, etc. Beaucoup de ça. J'ai des cahiers complets, des centaines, voire maintenant des milliers de personnes qui ont dit, voilà, c'est un beau projet. J'ai pas de doute sur le plébiscite. Hein. Aujourd'hui, il y a 4 ans, c'est vrai, ça paraissait original. Aujourd'hui, le plébiscite, il est réel. Les Nantais, vous leur expliquez... J'ai vu des centaines de personnes, vous leur parlez un quart d'heure du projet, au bout d'un quart d'heure, c'est du 99,9%.
Alors si ce projet, il
pour,
est...
Pour, excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase.
Si ce projet est incontestablement populaire, enfin vous avez rencontré un écho intéressant. Tout à l'heure, vous avez parlé de fuite dans la presse. Alors, moi j'ai lu attentivement la presse locale. On y parle des futurs projets de Nantes Métropole en matière de franchissement. Et la presse a fait état d'informations quand même assez précises, même si elles ne sont pas officielles, hein, bien sûr, sur un projet de pont fixe sur le bras de la Madeleine, en le localisant même de manière assez, assez précise. Comment vous réagissez à ça ?
J'ai piqué un coup de sang, hein, je crois qu'il ne faut pas... Là, parce que, il y a 4 ans, on lance ça parce qu'il y avait effectivement la nécessité de garder cette ouverture du fleuve qui m'avait été confirmée par Jean-Marc Ayrault. Donc on paye une étude très chère, une expertise, pour voir quelles sont les différentes solutions. Si c'est pour au final faire un pont fixe, c'est-à-dire tout cet argent, c'est du gaspillage. Et je ne parle pas de l'argent qu'on a mis sur les pontons pour accueillir le BLM, etc., de ce que ça représente pour les Nantais, du gâchis que ça va être financier derrière. Mais si on part sur un pont fixe, les dés sont pipés, on n'est pas sur les mêmes bases. Quoi. Il fallait le dire dès le départ, il n'y a pas dépensé tout cet argent. Donc effectivement, j'ai piqué un coup de colère, parce que là, c'est porter un coup décisif à ce chemin de l'eau que je souhaite que Nantes reprenne.
Alors, vous avez été même plus qu'en colère, parce que je crois que j'ai lu quelque part sur Facebook, vous parlez de crime contre la ville. C'est une expression
alors,
qui est extrêmement forte.
J'ai pas dit
forte.
Crime, oui, j'ai dit, alors je sais plus le terme que j'ai employé, mais je l'ai fait exprès. Un terme fort pour dire non, attendez, là, stop. Si on n'a pas encore compris que les comblements de l'Erdre, c'était une bêtise, et je reste poli, si on n'a pas encore compris que voilà, on a perdu les chantiers et que c'est dommage, si on n'a pas encore compris que si les Nantais se précipitent pour aller voir le Bélen, c'est parce que ça leur manque, à ce moment-là, on n'a pas compris la forme de la ville. Vous savez très bien, quand je dis forme de la ville, de quoi je parle. Hein, Julien Gracq s'appelait Louis Poirier, vous êtes au courant. C'est pas un cousin. N'empêche qu'il a bien compris que la forme de la ville, c'est une forme de sirène. C'était voilà, mi-terrestre, mi-maritime, mi-marine. Donc aujourd'hui, si on ne comprend pas ça, là, oui, effectivement, je pense que ça vaut le coup qu'au moins un Nantais se fâche. Mais je n'ai pas été le seul, visiblement.
Et est-ce que la logique... Après avoir construit le pont de Cheviré et lui avoir donné un tirant d'air de l'ordre de 55 mètres, est-ce que la logique, elle n'est pas finalement de... Enfin, l'idée, c'était de permettre le passage des grands navires et d'en monter jusqu'au quai de Nantes.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire aussi avec ce choix qui a été fait à une époque ?
Oui, tout à fait. Il faut rester dans cette logique-là. Moi, j'ai toujours dit, Nantes, c'est une ville curseur. À sa droite ou à l'est de la ville, le fluvial, et à sa gauche ou à l'ouest, le maritime. Et c'est très bien, et c'est ça qu'il faut conserver. On va inventer d'autres façons, et on a inventé, d'ailleurs, la preuve, depuis qu'on a sorti le projet, on a vu beaucoup de manifestations maritimes sur le bras de la Madeleine. Voilà, bon, il ne nous reste plus que ce bras de la Madeleine, on ne va pas terminer effectivement les comblements. Ça, effectivement, je pense que ce sera un crime contre l'âme de la ville.
Alors, et vous avez parlé des décideurs politiques, mais qui eux-mêmes ont aussi quand même quelques contraintes.
Oui.
Il pourrait être annoncé au printemps une décision d'implantation du CHU sur l'île de Nantes, donc ce qui pose quand même quelques questions sur l'accessibilité. Donc les contraintes qui sont celles des décideurs politiques doivent aussi pouvoir s'adapter à un projet qui est aussi un projet de réenchantement de la ville, mais qui est peut-être moins terre à terre.
Vous savez, le pont transborder, il révèle beaucoup de choses. Est-ce que finalement, la ville moderne ne va pas tuer la ville ancienne ? C'est ça la question de tous ces chamboulements. Moi, quand je vois, et je vais être beaucoup plus large, quand je vois un centre Atlantis qui accueille des milliers de voitures et qu'on interdit les voitures en ville, je me dis, est-ce qu'on va pas déporter, finalement, envoyer les gens à l'extérieur de la ville? Quand je vois un CHU qui arrive et puis qu'on dit, mais pour oxygéner le CHU, il faut absolument quasiment combler la Loire, je dis, ben non, la politique de la ville, c'est une question d'anticipation. Si on n'a pas anticipé, il faut pas se plaindre au dernier moment qu'on fasse des bêtises parce que on n'a pas anticipé. Il fallait, je vais aller très loin. Il y a 30 ans, il fallait dire cette voie ferrée sur l'île de Nantes, qui termine en impasse, qui est actuellement plus ou moins à l'abandon et qu'on va voir disparaître, cette voie ferrée, il fallait la faire passer en souterrain pour la relier à la gare de Chantenay. On n'aurait pas eu les problèmes de sécurité sur le tunnel, etc. C'est vrai que c'était des... Mais on sait faire. C'était des choses... Et à ce moment-là, vous auriez eu, pour le CHU, une sorte de gare RER qui vous aurait relié à toute la Bretagne. On n'aurait pas eu toutes ces voitures, ce problème de voiture. Moi, ce qui est très bizarre aujourd'hui, c'est qu'on nous a dit attendez, il faut plus de voitures, faut apaiser le centre-ville, machin, etc. Et puis aujourd'hui, on nous dit un petit peu l'inverse, on dit il y a le CHU, il va falloir des ponts pour des voitures, etc. Il faut être cohérent. Non, il y a une anticipation. Si l'arrivée du CHU, ça veut dire qu'il faut terminer la Loire maritime et la transformer en Loire fluviale, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, on a fait beaucoup de bêtises. Je vais prendre un autre exemple, mais qui me du côté du cours Jean-François. John Fitzgerald Kennedy, avenue Carnot, vous savez, le début. Là où il y avait le pont de la Rotonde avant. Hein. Maintenant, il y a une méli-mélo de canal Saint-Félix qui passe en dessous d'un toboggan avec le TGV qui passe en dessous, etc. C'est un exemple de gâchis qu'on a pris parce qu'au dernier moment, il y avait des problèmes fonctionnels et qu'on a essayé de résoudre les problèmes fonctionnels dans l'urgence. Aujourd'hui, c'est vraiment une verrue. Hein. Donc ne refaisons pas les mêmes erreurs sous prétexte qu'il faut absolument faire fonctionner cette île, massacrer son fleuve.
Quelque part, j'ai entendu ce que vous disiez dans votre développement. Vous considérez qu'un pont, un pont banal, on va dire en quelque sorte, c'est équivaut au comblement du bras de la Madeleine.
Alors, la fermeture maritime, on va aller ensemble sur le quai de la Fosse, on va observer par tous les temps, toutes les luminosités, 30 mous, cette liberté du fleuve. Moi, je veux une Loire libre. Bon, ça, effectivement, cette perspective, cette ouverture du fleuve vers l'aval, c'est quelque chose qui devrait être classé, comme dit Eric Cabanas dans Presse Océan, ça devrait être classé. Aujourd'hui, ça l'est pas, donc c'est en danger. Mais gardons-le. Après, il faut effectivement se mettre autour de la table pour voir les solutions pour oxygéner le CHU, quelles vont-elles. Mais toutes les solutions, à mon avis, qui fermeraient le fleuve sont de mauvaises solutions. Si le CHU est à ce prix-là, à ce moment-là, il vaut mieux le mettre, et je sais que même au Conseil de développement, j'ai vu des contributions passer, il vaut mieux le mettre à Rezé, carrément en Sud-Loire, où on aura plus de place et on aura moins ces problèmes-là.
Mais qu'est-ce qui a manqué pour convaincre les décideurs politiques, finalement ? Qu'est-ce qui manque encore ?
Je pense qu'il manque aujourd'hui, je vais pas tourner autour du pot, ce qui manque aujourd'hui, c'est le capitaine du navire. C'est véritablement quelqu'un, moi j'en veux pas à Patrick Rimbert, mais bon, est-ce qu'il se représentera après, etc. C'est difficile, il est un petit peu parachuté comme ça, à toute vitesse sur un poste de maire, c'est difficile de prendre des décisions aussi lourdes. Mais la décision, elle doit venir de quelqu'un qui a une vision sur la ville, qui anticipe à long terme et qui dit ma ville, elle a une âme, je veux la promouvoir, cette âme. Et voilà, et j'ai tout ce que je vais faire avec ça, d'aménagement du CHU, etc., va respecter, voire fortifier l'âme de ma ville.
Philippe, oui.
Oui, moi j'avais une autre question sur la concurrence potentielle avec l'arbre au Héron. C'est-à-dire qu'on est aussi sur cette île, sur un projet qui est le projet des machines, et on voit d'ailleurs dans la presse la question également posée concernant le choix à faire pour le financement et la réalisation de cet arbre au Héron. Oui. Est-ce que c'est pas un concurrent du pont transbordeur, d'une certaine manière.
Moi, je ne le pense pas du tout. D'abord parce que la ville, elle est prête à mettre 50 millions d'euros sur un pont fixe. Donc, ces 50 millions d'euros, ils n'iront pas sur l'Arboréon. Donc, ce seront des budgets différents. D'autre part, j'étais assez sensible. Moi, j'ai lu la presse, effectivement, tous les échos qu'on a eus ces jours-ci, par la réaction des associations maritimes qui ont dit « Attention, voilà, ne partons pas sur un parc d'attractions. Il faudrait éviter, attirer des gens, ça ne veut pas dire faire un Disneyland sur la pointe de l'île de Nantes. Ça, ce serait vraiment dommage et c'est aussi, ça tuerait l'âme véritable du lieu. » Le lieu, c'est quand même le lieu de la genèse, que d'abord d'une rive ou de l'autre, hein, que ce soit rive droite ou rive gauche, de la genèse de ce qu'a fait Nantes, c'est-à-dire la construction des bateaux qui a permis à Nantes d'être une ville internationale, s'est projetée dans le monde entier. Donc aujourd'hui, ça, il faudrait effectivement faire attention à pas faire dans le divertissement. Je le dis pas pour l'Arboréron, mais je le dis d'une façon générale. Parce que j'ai été voir Disneyland, c'est quand même triste, si vous voulez, il y a un moment où on fait du divertissement pour du divertissement. Aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est pas d'abord un divertissement, c'est d'abord un ouvrage d'art qui appartient à une certaine culture maritime et qui permet de faire traverser, donc il y a une utilité. Et après, cet ouvrage d'art, dans cette culture, dans cet esprit maritime, il va pouvoir attirer du monde. Mais on n'est pas sur, voilà, on n'est pas sur du tout le même créneau, je dirais que quelque chose qui serait un pur divertissement.
Paul Poirier, on va élargir un petit peu l'horizon, si je puis dire. Alors d'une part, on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, mais ce projet de nouveau pont transbordeur, celui du 21e siècle, il est conçu avec quelques acteurs intéressants du point de vue de l'innovation. Donc vous pourriez peut-être en dire deux mots. Et évidemment, si on conçoit un projet comme ça, on ne le conçoit pas pour une seule ville. Donc vous avez régulièrement dit que vous aviez des contacts dans d'autres villes pour... peut-être l'implantation d'un tel pont, où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là ?
Alors, oui, effectivement, ce projet n'est pas né n'importe où. Il est quand même né au sein des pôles de compétitivité. À l'époque, ça s'appelait Pôle Génie Civil et Co-Construction, maintenant Novabuilt. Et puis avec EMC2. Et vous savez, c'est très très porteur. C'est une sorte de mélange de grandes écoles, de PME, d'universités, de grands industriels et tout. Et c'est, moi j'ai rencontré beaucoup de gens. La première surprise, ça a été de voir que finalement Nantes, en termes de pont, était très renommée. Je donne comme exemple que le viaduc de Millau a été passé en soufflerie. Au CSTB, à la soufflerie du CSTB, la soufflerie Jules Verne. Donc effectivement, on a été très portés et c'est avec tous les contacts qu'on a eus dans les pôles de compétitivité, EMC2 et Novabuilt, qu'on a pu accéder à l'équipe de Millau, quoi, grosso modo. Alors, d'autre part, EMC2 nous a permis de réaliser une étude de marché. Et on a été très surpris par les résultats de cette étude de marché. Il y a un fort potentiel, même au niveau européen. Les résultats qu'on attendait sur le monde sont déjà des résultats présents en Europe. Donc ça confirmait ce que les industriels m'avaient dit. Il y a un avenir pour les points transbordeurs modernes. Donc on a des contacts, que ce soit ici en France, là demain je pars à Marseille, mais également en Europe, même en Russie, et on va jusqu'à voir donc des sites comme Shanghai, etc. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Moi j'ai pas d'inquiétude métaphysique par rapport à l'avenir des points transbordeurs. Il est établi. Bon, il faut du temps. Hein, ça fait 4 ans. Donc 4 ans dans la vie de quelqu'un c'est peut-être long, mais dans la vie d'un projet comme ça, le Jean-Marc l'avait dit, il faut 10 ans pour faire un pont. Donc on est sur des laps de temps à peu près équivalent à ça. Voilà. Donc je ne suis pas inquiet du tout pour l'avenir du projet industriel. Je suis plus inquiet par un manque de décision, une sorte de difficulté, effectivement, à être prophète en son pays. Mais bon, Nantes, c'est une ville qui a du ressort. Moi, je suis sûr que les élus vont finir par se décider.
Vous avez parlé des élus et de la nécessité de les convaincre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi convaincre les techniciens dans cette affaire, et est-ce que le temps est venu où les techniciens finalement acceptent un projet qui émane pas forcément de leur sphère mais qui vient d'ailleurs?
Alors, cet aspect exogène du projet, c'est la première fois qu'un projet aussi important n'arrive pas de l'intérieur, de chez les techniciens, Nantes Métropole, etc., il arrive un peu de l'extérieur. Bon, moi je dirais c'est un bel exemple de projet de citoyen. Vous avez vu, les Transbordés, c'est quand même une association transversale où il y a toutes les sensibilités politiques et tout. Donc on est typiquement dans un projet citoyen. Alors on parle de projet citoyen, on en veut, mais le jour où on en a un comme ça, effectivement, ça fait tout drôle. Bon, faut pas avoir peur, c'est effectivement porté par un plébiscite populaire et tout, donc... j'ai pas non plus d'inquiétude à ce que cette idée-là, ce serait magnifique. Moi, j'ai toujours dit, hein, si Jean-Marc Ayrault, s'il revient, par exemple, et puis qu'il veut faire le pont, eh ben, ce serait fort de sens, quoi, en fait, hein, qu'on puisse avoir un projet comme ça, porté par des gens qui sont pas forcément de même sensibilité.
Et pour suivre, Philippe, là, sur l'élargissement du questionnement, l'association des transbordés, aujourd'hui, ne parle pas simplement d'un pont transbordeur, développe un projet qui est plus large, oui, qu'on appelle le port Jules Verne, qui est un projet finalement d'aménagement urbain de tout un espace. C'est quasiment un programme pour les élections municipales, ça, ou...
Alors moi, je ne sais pas, il faut leur demander. Hein. Je vous ai dit qu'on se retrouve à un an des élections municipales. Moi, j'y suis pour rien, hein, parce que on a le projet, à mon avis, donc est prêt depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mais bon, effectivement, le contexte est intéressant. Est-ce qu'au niveau des municipales, qui va s'emparer de ce projet? Peut-être que toutes les équipes vont mentionner le projet. Moi, c'est ce que je souhaite. J'ai toujours refusé que ce soit un projet partisan. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire un pont entre une rive droite et une rive gauche. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, pour l'instant, la question du pont, vous l'avez réussi. Vous avez réussi à des passerelles entre toutes les tendances politiques. Finalement, personne n'a véritablement rejeté cet équipement. Toujours pour élargir cette question du pont transbordeur et de l'aménagement urbain, Nantes a beaucoup réfléchi ces derniers temps sur la question 2030, comment on se projette dans l'avenir. Vous la voyez comment, vous la vivez, la 2030? Elle a gardé une âme maritime, elle ne l'a pas gardée. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais plus largement, des ponts transbordeurs, il y en a plusieurs.
Je crois que 2030 se réussit en 2013. Hein, effectivement, on est là aujourd'hui à se poser la question de l'identité nantaise. Qu'est-ce que on n'entendait pas ces mots-là il y a quelques années, du maritime, du retour du maritime, l'âme de Nantes, la forme de la ville, etc. Tout ça, c'est devenu maintenant décisif. C'est-à-dire c'est pour ça que moi j'attends tous les élus, hein, de tous les bords. J'attends de voir ce qu'ils vont dire cette année. Ça va se déclencher. C'est cette année que la campagne est partie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle forme ils veulent donner à la ville? Et c'est cette vision à long terme, donc effectivement jusqu'à 2030 et plus, qui m'intéresse chez les élus.
Et vous pensez que ces élus-là, ils ont une sensibilité maritime aujourd'hui, ou qu'eux aussi, notamment dans les plus jeunes générations, il peut y avoir des dilutions?
Je vais être un peu dur, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a un danger, c'est que Nantes, de belle endormie, ne passe pas à belle amnésique. Je suis dur, mais volontairement pour réveiller les consciences. Aujourd'hui, on a du mal avec notre passé, on le sait. Il y a eu beaucoup de choses très belles, des choses beaucoup moins belles. Mais on est un petit peu mal à l'aise. C'est typique chez Nantes. Hein. C'est une ville, je connais très bien Saint-Malo. Saint-Malo, il y a aussi de l'esclavage, etc. Mais c'est une ville qui est fière d'elle-même, qui attire énormément, etc. Donc, il faut qu'on retrouve confiance en nous. Et qu'on explore notre passé avec ce qu'il y a eu de beau et puis ce qu'il y a de moins beau, qu'on reconnaisse tout ça, qu'on revisite notre passé, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous construire et de nous projeter vers l'avenir, que ce soit 2030 ou après. Et c'est un petit peu ça, c'est une petite critique par rapport à 2030. J'attends un peu, j'avais vu dans les premières brochures le pont transbordeur, le projet, le transbordé, etc. nommé. Là, j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver. Donc voilà, est-ce que effectivement Nantes va retrouver cette identité forte? Moi, je crois que c'est une très grande question pour Nantes 2030. Il faut qu'elle soit elle-même, il faut que ce soit une ville unique. Ça, Jean Blaise me le disait. Effectivement, il faut un lieu unique, une ville unique. Il faut que Nantes soit une ville unique, pas une ville qui se dilue dans des tas de projets, mais où en fait, elle a perdu son identité.
C'est quasiment une déclaration de candidate.
Alors, écoutez, non. En tout
cas,
c'est
le scoop de la matinée.
Moi, je crois que ce projet, il est maintenant partagé par des gens, de tous horizons. Et c'est ce qui en fait sa force. Après, le problème, il n'est pas de l'avenir de Paul Poirier, si Paul Poirier est ceci ou cela. Il est de Nantes, il est chez les Nantais. Moi, je refuse aujourd'hui de me projeter quoi que ce soit. J'ai proposé un projet aux Nantais. Maintenant, j'attends une réponse de la part de techniciens. Je l'ai eu. Ils ont dit, c'est pas aussi fort qu'un pont fixe. Évidemment, on le savait depuis le départ. C'est pas aussi fort qu'un pont fixe. Ils ont dit le pont transbordeur, c'est un bel objet. Maintenant, la partie iconique, touristique est fantastique. Continuez. Et ça, c'est les techniciens de Nantes Métropole qui me le disent. Maintenant, on attend de savoir comment vont se positionner les élus par rapport à, effectivement, ces problèmes. Hein. Je veux dire, on n'a pas eu le temps trop d'en parler, mais même le fait de doubler le pont de Bretagne, je ne sais pas si c'est la solution. Il y a un problème, parce que le pont de Bretagne, aujourd'hui, il sert de parking. Il y a un problème de chaque côté. Il y a un tournage à gauche. gauche sur lequel la fosse qui est mal gérée, de l'autre côté, donc c'est un goulot d'étranglement. Donc c'est pas forcément en faisant un pont fixe ou en élargissant les ponts qu'on va résoudre les problèmes. Je pense que c'est en anticipant, en projetant à long terme, en imaginant le transport en commun, le retour du ferré. Moi, j'insiste énormément parce que c'est de l'écologie, ça, c'est vraiment le retour du ferré en force pour justement avoir moins de voitures. Je suis complètement dans cette philosophie de moins de voitures si possible et plus davantage de transports en commun. Moi, je suis un ex-parisien, si vous voulez, quand je vais à l'Hôtel Dieu à Paris, je n'y vais pas en voiture, c'est fini. Bon, il faut aussi que nos habitudes changent. C'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que il y a des aménagements à faire. Et voilà, il y a une problématique de la voiture. On utilise trop la voiture pour aller à Atlantis, c'est pas assez pour aller dans la ville, etc. Ces problématiques-là, c'est des problématiques fortes. Et les réponses qu'on va avoir aujourd'hui, moi je les attends. Hein. Je les attends pas de moi, je dirais, moi j'ai des idées, mais j'attends vraiment que le débat s'installe.
Mais cette problématique de la mobilité, justement, est-ce que c'est pas là où finalement le bât blesse? Parce que si Nantes Métropole peut être intéressée par l'aspect touristique, par l'aspect monument, par l'aspect attractivité, est-ce que l'aspect transport, est-ce que c'est pas là finalement que ça coince un peu, ou que les techniciens de Nantes Métropole peuvent dire, est-ce que c'est vraiment la bonne solution si on a à faire face à vraiment à des flux, notamment à cause du CHU?
Bah écoutez, oui, pour le pont transbordeur, moi, c'est vrai que ça m'a étonné que quasiment à la fin de l'expertise, on me dise, bon, voilà, il va falloir que ça transporte plus de 1000 voitures par heure. On n'est pas du tout dans la philosophie qu'on a eue jusqu'à présent. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Aujourd'hui, moi, je ne me l'explique pas. Et voilà, je n'y participe pas. Et même d'ailleurs, Marcel Smets ne voulait pas, ni Jean-Luc Charles et tout, d'un aspirateur à voiture en bout d'île. Donc ces incohérences, ces difficultés de cohérence, je dirais, par rapport aux décisions à prendre, il est temps aujourd'hui de dire clairement, voilà, nous, c'est le transport en commun, il faut absolument le transport en commun. Parce que moins on aura de voitures pour aller au CHU, et plus les ambulances passeront facilement, etc., plus il y aura des taxis, etc. Et donc, il faut que nos habitudes changent. Je sais, il y a des gens qui disent la voiture, on ne peut pas l'éradiquer complètement. Moi, je sais qu'effectivement, il faut des parkings, etc. Il faut aussi penser à la voiture. Mais ne disons pas, voilà, aujourd'hui, il faut un pont fixe à plus de 1000 véhicules heure en bout d'île. C'est complètement incohérent par rapport à tout ce qu'on a lancé jusqu'à présent.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre obstacle aussi? Enfin, j'essaie de vous rajouter des obstacles comme ça au fil du temps. Un obstacle qui s'appelle la crise, qui s'appelle notamment les moyens financiers des collectivités locales. Ou est-ce que le projet, c'est une espèce de réponse à la crise? C'est-à-dire, on peut avoir aussi des...
Je vais faire un petit peu de politique. Hier, on avait, comme il s'appelle, Bérou, qui parlait d'un manque d'énergie. Oui, est-ce qu'on est dans le manque d'énergie? Bon, moi, aujourd'hui, c'est la question. Est-ce que en période de crise, c'est pas justement là qu'il faut avoir des idées originales, des idées audacieuse et se projeter et anticiper, etc. Parce que si on n'a pas d'idée et si on cède dans le pessimisme, alors là, on est les premiers, on va se prendre dans la vue beaucoup plus que les autres. Là.
Non, mais la crise, elle existe. Enfin, les contraintes financières des collectivités, elles sont effectivement prégnantes. Et je veux dire, ils auront des choix à faire, y compris des choix d'équipement. Pour eux, c'est pas forcément facile.
Ils ont le choix aujourd'hui entre un pont classique qui va coûter et ne rien rapporter, en dehors de fluidité certainement, mais ne rien rapporter, et un pont qui va respecter l'identité de la ville, voire la renforcer, et qui va rapporter, puisqu'on sait, on est assuré de son rapport économique, des recettes économiques. Bon, je dirais, pour moi, il n'y a pas, voilà, on ne va peut-être pas compliquer les choses. Vous avez d'un côté un pont qui coûte, et puis de l'autre côté un pont qui rapporte. La solution, pour moi, elle est assez simple. En tout cas, je peux vous dire, je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir d'un tel projet. J'espère que ce sera à Nantes.
Merci Paul Poirier. Enfin voilà, une heure qui a passé assez vite. Donc merci de cette passion, à la fois pour un projet, mais aussi pour votre ville, ce qui est assez rassurant dans cette époque printanière. Alors on se retrouve le mois prochain pour Fréquence Citoyenne, et d'ici là, restez sur Radio Nantes.
Merci.